présumé des faits est passé aux aveux ce matin. Cet ancien militaire de 24 ans, confondu grâce à son ADN, a fini par tout reconnaître. Il a été mis en examen pour assassinat. Une nouvelle audition dans l'affaire Clearstream. Depuis ce matin, Jean-Louis Gergorin, l'ancien vice-président du groupe EADS, est à nouveau entendu par les enquêteurs au pôle financier du palais de justice de Paris. À Marseille, la grève des conducteurs de bennes à ordures pourrait prendre fin assez rapidement. Les négociations ont permis d'aboutir à la rédaction d'un protocole de fin de conflit. Voilà une semaine que les ordures s'entassent dans les rues de Marseille. Reprise de la cotation du titre Arcelor à la Bourse de Paris après l'annonce du mariage avec Mittal Steel. Lors des premiers échanges, le titre Arcelor était à la hausse. On va voir ce qu'il en est maintenant.
La Bourse avec Lawson, éditeur d'ERP, né de la fusion avec Intensia.
Bonjour Antoine Verlin.
Bonjour Claire.
Alors, donnez-nous des nouvelles du titre Arcelor.
Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accord conclu ce week-end avec Mittal est très bien accueilli par le marché, puisque le titre Arcelor, qui était, je vous le rappelle, suspendu de cotation depuis mercredi, eh bien, a repris le chemin de la bourse à 13h et s'octroie actuellement 7,71%, remonte ainsi à 37,72€ et se rapproche ainsi de la dernière offre de Mittal qui valorise l'action Arcelor à 40,40€. Alors, concernant le marché parisien, eh bien, c'est l'attentisme qui prévaut aujourd'hui à la Bourse de Paris. En effet, les marchés attendent la réunion de la Fed qui devrait s'achever jeudi sur une nouvelle hausse des taux directeurs. En attendant, le CAC 40 est quasiment à l'équilibre, moins 0,07% à 4814 points. Sur les marchés d'échange, l'euro lui reprend 0,46% à 1,2560. Et puis sur les marchés de l'or à Londres, au premier fixing, l'once remonte à 586,25. Je vous rappelle le CAC 40 stable à 4815 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Merci Antoine. Vous écoutez France Inter, il est presque 14h04. Et oui, il est temps de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Yvan Levaille, la France et Israël depuis 1948. La politique de la France se fait à Paris, pas à Tel Aviv. François Mitterrand, en 1980. 2000 ans d'histoire. Depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948 et jusqu'à aujourd'hui, en passant par la célèbre formule du général de Gaulle qui, en 1967, condamnait l'offensive israélienne et ce peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, on ne compte plus les disputes, les malentendus et les réconciliations qui ont marqué les relations franco-israéliennes. Depuis le conflit qui, depuis 60 ans, oppose Israël aux États arabes, aux Palestiniens et à Israël et aux États arabes et aux Palestiniens, la France a toujours joué un rôle important, partagé entre la sympathie qui lui inspirait l'État hébreu au lendemain de la Shoah, sa volonté de défendre les Palestiniens chassés de leurs terres et ses intérêts dans le monde arabe. Elle a entretenu avec Israël des rapports qui, bons ou mauvais, ont toujours été passionnels. France Inter, Christophe Ondelat, le 22 octobre 1996.
Incident diplomatique à Jérusalem, excédé par l'omniprésence des policiers israéliens ce matin lors d'une visite de la vieille ville. Jacques Chirac menace de prendre l'avion et de rentrer à Paris. Le Premier ministre israélien lui présente ses plus plates excuses. L'incident, nous dit-on, est clos. Voyons donc ce qui s'est passé. C'était ce matin dans la vieille ville, un quartier de Jérusalem essentiellement habité par des Palestiniens qui voudraient bien en faire d'ailleurs leur capitale. Jacques Chirac avait décidé d'aller se promener dans les rues comme ça, seul ou presque, avec pour seule protection ses gardes du corps. Surprise, quand il est arrivé sur place, il y avait des policiers israéliens partout. Armés jusqu'aux dents, Jacques Chirac a alors piqué une grosse colère.
Yvan Levaille, bonjour.
Bonjour.
C'était il y a 10 ans un moment tendu des relations franco-israéliennes qui n'ont jamais cessé d'être passionnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles n'ont jamais été sereines. Comment expliquez-vous d'ailleurs les passions que suscite en France plus qu'ailleurs l'État d'Israël, sa politique et les relations que l'on entretient avec lui?
Bah écoutez, ça a commencé par une histoire d'amour. Hein. Disons que sous la 4e République, entre le gouvernement français et le gouvernement israélien, c'était un amour véritable, c'était une vraie passion. Et ça correspondait tout à fait à ce que pensait l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion publique était favorable à ce jeune État juif, au fond, composé dans l'esprit des Français, de gens qui étaient des rescapés de la Shoah. Maintenant, d'une façon plus générale, on est un vieux pays. La France est un très vieux pays. On aime l'histoire et on aime tellement l'histoire, bien que on la vit passionnément, et curieusement, on la vit passionnément aussi après coup. C'est-à-dire, il n'y a pas cette espèce de neutralité qu'on retrouve ailleurs. En France, on aime ou on déteste. Il n'y a pas de sentiment moyen.
Alors cette passion, vous l'exprimez dans votre dernier livre, Israël, mon amour, un livre dans lequel vous faites vôtre cette belle phrase de Kessel dans sa lettre aux Juifs de France. Kessel qui écrivait « L'homme qui vous parle est mal placé pour prendre part au conflit qui déchire l'islam et Israël. Pour moi, ce qu'il y a de plus juste dans une cause, c'est toujours la façon de la défendre. » Autrement dit, Yvan Levaille, dans ce livre, qui n'est pas à proprement parler un livre d'histoire, vous défendez une cause, c'est celle d'Israël. C'est pas un livre objectif, c'est un livre subjectif, vous ne vous en défendez pas d'ailleurs.
Non, mais je veux vérifier quelque chose de simple. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en France, en 2006, est-ce qu'on peut dire le plus naturellement du monde et le plus simplement du monde, j'aime l'État juif, j'y tiens, et j'aime le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Israël, mon amour. J'avais très envie, je vous dis la vérité, j'avais très envie d'appeler ce livre La frontière juive. Parce que, d'abord, la frontière juive, elle est peut-être mentale dans l'esprit de nos concitoyens. Elle est peut-être aussi une frontière difficile à atteindre pour les juifs. Il y a mille et une manières d'être juif en diaspora, comme vous savez. Et la frontière juive, c'est aussi ce que recherche désespérément aujourd'hui et depuis bientôt 60 ans, le peuple israélien. Pardon. Mais quand je dis Israël, mon amour, c'est un sentiment véritable parce que j'ai envie de dire, mais c'est une démocratie au Proche-Orient, nous sommes démocrates, nous sommes républicains, donc nous devrions, sans détester les Palestiniens, nous devrions aimer l'État juif. Et depuis l'amour de la 4e République, on est passé au désamour et à l'incompréhension totale, même si les choses ont l'air d'aller mieux depuis un an ou deux.
Alors, on l'a aimé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le rappelez dans votre livre, au moment où il est né, et pendant les 10 ans d'ailleurs qui ont suivi la naissance d'Israël, proclamé par le premier ministre israélien, Ben Gourion, en 1948, quelques mois après le plan de partage de la Palestine, voté par l'ONU le 29 novembre 1947.
Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. France, yes.
The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Nous sommes solennellement réunis, nous les membres de l'Assemblée du Peuple, représentants des Juifs de Palestine et du mouvement sioniste, en ce jour de la cessation du mandat britannique. En vertu de nos droits naturels et historiques et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons la création d'un État juif en la terre d'Israël.
Yeah.
Hatikva, l'espoir, l'hymne de l'État d'Israël dont la naissance en 1948 était approuvée. On l'a entendu par toutes les grandes puissances présentes à l'ONU, à part la Grande-Bretagne qui s'abstenait, mais c'était la puissance mandataire avant l'indépendance d'Israël. Mais il y avait la France, les États-Unis, même l'URSS, Yvan Levaille, vous le rappelez. Mais c'était aussi au lendemain, bien sûr, de la Shoah, et à part les pays arabes qui ont voté contre, personne ne contestait alors la légitimité d'un État juif en Palestine.
Mais j'ai le sentiment que il y a peu de gens pour le contester, la contester aujourd'hui. Alors évidemment, à cette période, il y avait plusieurs choses, vous l'avez dit et vous avez raison de le dire. Il y avait au fond la honte des puissances occidentales devant ce qui s'était passé en Europe. Bon, et cette honte s'est transformée en un sentiment positif. Pour le coup, on s'est dit, l'idée de Herzl, c'est-à-dire d'un foyer national juif sur ces terres du Proche-Orient qui sont les terres historiques des Israéliens, cette idée-là, 1897, elle aboutit effectivement à la fin de l'année 1947. Et c'est pour ça que ce qu'on a entendu sur votre document est vraiment bouleversant. Parce que tout le monde dit oui, y compris l'Union soviétique. Mais il faut pas s'y tromper. L'Union soviétique dit oui parce qu'elle considérait que c'était un moyen de faire beaucoup de peine, pour ne pas dire plus, à l'État mandataire, l'Angleterre, et à la France, qui était des puissances coloniales, qui s'étaient partagées depuis des années et des années, ces terres du Proche-Orient. Moi, je tiens à dire ça d'entrée, parce que il y a une chose qu'on oublie, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que le problème, si tant est qu'il y en ait un, et il y en a un, et il est de taille au Proche-Orient, c'est que Israël est en Palestine, et que la Palestine est en Israël. Vous voyez à quel point c'est compliqué.
Et que la Palestine n'est pas déserte. L'argument du mouvement sioniste était de dire une terre sans peuple pour un peuple sans terre, les Juifs, mais la terre n'était pas sans peuple, il y avait les Palestiniens. Et ça, évidemment, c'est ce qui explique un très long conflit qui dure depuis 60 ans, et alors dans lequel, au début, la France participe activement, soutient activement l'État d'Israël, qui est son allié. Comment expliquer cette attitude de la France pendant les 10 premières années de la naissance de l'État d'Israël? Vous invoquez, Yvan Levaille, un syndrome de Vichy, au fond, la mauvaise conscience qu'auraient eu les Français et se rachetant, soutenant l'État d'Israël.
Mais oui, mais c'est vrai, écoutez, c'est le cas. Et puis je pense qu'il y a encore autre chose. La mauvaise conscience du peuple français, elle date pas seulement de Vichy, elle a été précédée par cette bataille terrible qui a été l'affaire Dreyfus. Attendez, on va fêter le 12 juillet la réhabilitation de Dreyfus, mais Dreyfus est encore dans toutes les têtes avec cette rupture entre deux Frances. Une France qui considérait que Dreyfus, juif, était un traître coupable et qu'on envoie à l'île du diable, et puis une autre France, j'allais dire qui est la plus belle, celle de Zola, celle de Bernard Lazare, qui dit non, c'est pas possible. Et de cette affaire Dreyfus, il faut bien voir qu'elle a donné des idées à Hitler et aux nazis, et puis il faut bien voir aussi que d'une certaine façon, en 1940, il y a un certain nombre de gens qui ont considéré que Vichy et Pétain, c'était la revanche du camp Dreyfusard.
Alors il y a aussi peut-être autre chose, Yvan Levaille, c'est que à partir du déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954, eh bien Israël et la France sont un ennemi, un adversaire commun, qui est l'Égypte de Nasser, qui soutient à l'époque le FLN algérien, et contre laquelle le gouvernement français de Guy Mollet et de son ministre de la Défense nationale, Maurice Bourgès-Monory, eh bien, engageait une opération militaire sur le canal de Suez, une opération militaire avec les Anglais, mais aussi avec Israël, qui en prenait l'initiative en octobre 1956.
Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Héliopolis. Il est exactement 22h du Caire du 31 octobre 1956. En ce moment, les bombes incendiaires qui ont précédé le lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge des incendies.
L'affaire de la couverture aérienne d'Israël a été tellement importante que
Maurice Bourgès-Monory,
nous ignorions l'état d'impréparation totale des Égyptiens, et nous avons été jusqu'à habiller avec l'uniforme israélien des unités qui ont pris l'air avec nos avions. C'était, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France, et j'ai jamais eu la plainte d'un officier quelconque pour m'être livré à cette supercherie.
Le secret était gardé ou pas, non?
Après, ben, vous voyez, vous ne le saviez pas.
Et c'était le ministre français de la Défense en 1956, Maurice Borges-Monory, qui me confiait 30 ans plus tard, en 1987, une opération qui est tenue secrète. La France a participé à cette guerre avec des soldats français, des pilotes en uniforme uniforme israélien, des avions qui étaient des avions aux couleurs israéliennes. Ce soutien a été militairement très important pendant une dizaine d'années. Vous dites même, Yvan Levaille, qu'il a été jusqu'à aider Israël à se doter de la bombe atomique.
Ah bah écoutez, sans les gouvernements de la 4e République, Israël n'aurait pas eu la bombe atomique. C'est vrai. Et il y a quelqu'un qui s'en est offusqué et qui en parle très clairement dans ses mémoires face à Alain Perfit, qui a reproduit le texte, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en arrivant en 58, considérait que ça avait été une grave erreur de laisser Israël construire et bâtir sa bombe atomique. Bon, voilà. Maintenant, sur 56, faut dire un mot tout de même, que ça a été une équipée qui pouvait se justifier pour plusieurs raisons, mais qu'elle s'est terminée d'une façon un peu ridicule, puisque ce sont les Soviétiques qui ont demandé à Washington de faire pression sur les Français et les Anglais pour se retirer du canal de Suez, où les Israéliens étaient arrivés, il faut le savoir, en 4 jours, et avaient occupé tout le Sinaï, et avaient gagné et un territoire dont on parle beaucoup aujourd'hui, Gaza et El Arish.
Et à l'époque, donc, les États-Unis et l'URSS en même temps, donc, se dressent contre non seulement cette intervention, mais du même coup contre l'offensive israélienne. Ça va changer, bien sûr, avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir et du coup des Américains dans le camp israélien, lorsque le général de Gaulle donc arrive au pouvoir en condamnant l'offensive israélienne pendant la guerre des Six Jours. C'était en 1967, et en stigmatisant à cette occasion non seulement la politique israélienne, mais le peuple juif, à l'occasion d'une célèbre conférence de presse qui allait provoquer de violentes polémiques. C'était le 27 novembre 1967.
L'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous, l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit.
Et c'était le général de Gaulle, le 27 novembre 67, parlant des Juifs comme d'un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Alors, vous vous en souvenez, Yvan Levaille, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Quelles ont été vos impressions à l'époque? Parce qu'on a beaucoup dit, mais c'est une formule antisémite.
Écoutez, c'est pas une formule antisémite. Alors, Alain Perfit, je veux le citer encore là-dessus, il dit on n'a pas compris ce texte du général de Gaulle. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui l'a très bien compris, c'est le dessinateur Tim, dans l'Express, en représentant un déporté avec sa tenue rayée et un sabot posé sur un fil barbelé d'un camp de la mort, et la main sur le cœur et l'air arrogant et dominateur. Bon, et qu'est-ce qui est acceptable dans peuple d'élite? Soit sûr de lui-même, après tout, pourquoi pas, dominateur. Eh bien, dominateur, c'est ne pas comprendre les Israéliens, et ça, c'est l'incompréhension du général de Gaulle. C'était donner l'idée que les Israéliens voulaient dominer le reste du monde arabe. Eh bien, ça, non, certainement pas. On peut penser ce qu'on veut, on peut critiquer la politique israélienne, mais ce côté dominateur, les Juifs ont jugé ça inacceptable. Vous voyez, moi, aujourd'hui encore, j'admire les subjonctifs et la langue du général de Gaulle, mais juif, peuple dominateur, non, 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 peuple dominé. Ah oui, alors, ô combien, dominateur, certainement pas.
Alors, comment expliquer justement ce changement de politique de la France avec le général de Gaulle? On a beaucoup dit que, une fois la guerre d'Algérie terminée, eh bien, ça levait l'hypothèque sur les rapports entre la France et les pays arabes, qui soutenaient, bien entendu, l'indépendance algérienne, la volonté de se tourner vers le tiers-monde, très attaché, on le sait, à la cause palestinienne. Ça, c'est quand même un changement important dans cette politique de ce qu'on appelle désormais la politique arabe de la France, et qui devient, à l'époque du général de Gaulle, incompatible avec une alliance avec avec Israël, Yvan Levary.
Alors écoutez, quitte à passer pour un naïf, moi je crois que en politique, on peut avoir une politique arabe, et il ne faut pas reprocher à la France d'avoir une politique arabe, parce que vous traversez la Méditerranée, cette espèce de mur liquide, hein. On parle beaucoup du mur en Israël, mais là il y a un mur liquide qui nous sépare des populations du Maghreb. Bon, il est normal que la France ait une politique arabe. Comment faire autrement? Et c'est logique et c'est sain. Mais ce que je ne comprends pas et ce qui apparaît incompréhensible à beaucoup de gens, c'est pour quelle raison cette amitié entre la France et Israël, qui a vraiment existé, vous le disiez vous-même, passionnément dans les dernières années 50, pourquoi on y a renoncé, plus ou moins hypocritement, plus ou moins clairement, dans les années 60, 70, 80 et même 90. Ça, moi, je ne comprends pas. Et je crois que la politique permet... Alors évidemment, on dit oui, vous êtes amis des uns et des autres. Mais oui, il y a des gens qui ont cherché à avoir cette attitude-là. Je dirais même, Mitterrand l'a cherché. Mais Jacques Chirac aussi.
Mais entre-temps, il y a eu deux présidents dont vous dites qu'ils ont poursuivi, au fond, la politique du général de Gaulle. Il y a eu Georges Pompidou, qui, on s'en souvient, parce qu'il livrait des armes à Kadhafi, à l'époque ami de la France, eh bien, s'était fait conspuer aux États-Unis dans une visite officielle. Il y a eu aussi le président Giscard d'Estaing, qui, d'ailleurs, s'était mis à dos la communauté juive au moment de l'attentat de la rue Copernic, en étant aux abonnés absents, il n'était pas intervenu. Et vous dites, d'ailleurs, que ça lui a coûté 1981, hein, ça a été... côté cher en 80, en évoquant un vote juif dont vous dites pourtant qu'il n'existe pas, Yvan Levaille, en France.
Eh ben oui, parce que le vote juif, c'est comme les fourmis de 18 mètres, ça n'existe pas. Le vote juif n'existe pas. Il n'empêche que lorsque les juifs sont maltraités, mal considérés, lorsqu'ils sentent qu'il y a un antisémitisme ou un antisionisme dans le pays, eh ben, ils exercent une influence peut-être sur leurs concitoyens et ils font savoir qu'il y a des gestes et des attitudes qu'ils n'aiment pas. Moi, je trouve pas ça scandaleux. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à parler de lobby juif comme on en parle aux États-Unis. Il n'y a pas de lobby juif en France. D'abord, les juifs de France sont français depuis 1791. Faut jamais oublier ça. Il faut jamais l'oublier. Donc moi, je crois pas au vote juif. Mais à Copernic, oui, Valéry Giscard d'Estaing aurait dû y aller ou envoyer plus qu'un seul représentant, parce que je vous signale que François Mitterrand, Jacques Attali, tous les socialistes étaient présents. Et ça, on n'oublie pas ça au moment du vote dans les urnes.
Alors justement, en 1980, c'est François Mitterrand qui arrive à l'Élysée, salué d'ailleurs par le Premier ministre israélien, Menahem Begin, qui salue en François Mitterrand un véritable ami d'Israël, dit-il, et un ami qui se rend en Israël, précisément, pour y prononcer un discours très remarqué à la Knesset, au Parlement israélien. C'était le 4 mars 1982.
Haïm, Arukim, Veshalom, Barkaïma, Leam Israël. Kaim Arukim Veshalom Barkaiva Leamei Ahefor Arva Merudeshet Shalom. Ami et longue vie.
Longue vie et paix durable au peuple d'Israël. Longue vie et paix véritable au peuple de toute la région. Fraternité renouvelée. Paix, mes amis, et longue vie.
Oui, le peuple français est l'ami du peuple d'Israël. Désormais, Israël vit. Et nous, la France, nous ne ménagerons pas plus qu'hier nos efforts pour que son droit à l'existence soit universellement admis sans équivoque et donc pour que soit reconnu du même coup son droit à détenir les moyens de cette existence. Le dialogue suppose que chaque parti puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État.
Et c'était François Mitterrand à la Knesset le 4 mars 1989. 82, vous vous en souvenez d'autant plus, Yvan Levaille, que vous étiez auprès de lui à ce moment-là.
Ben écoutez, oui, j'y étais. Et d'ailleurs, j'ai vu à quel point il y avait une bonne relation, et plus que ça, entre François Mitterrand et Menahem Begin, l'homme de gauche, côté français, l'homme de droite, côté israélien. Et voilà, deux peuples, une terre. Et deux États. Et vous voyez, je parlais il y a un instant de la nécessité d'avoir une politique équilibrée, juste, juste et équilibrée. François Mitterrand l'a tenté, s'y est employé. D'ailleurs, il a dit l'année suivante à Riyad, aux Palestiniens qui étaient venus en Arabie Saoudite, il aura dit la même chose que ce qu'il a dit aux Israéliens, c'est-à-dire « vous devez accepter l'État d'Israël ». Et aux Israéliens, il disait « vous devez accepter la création d'un État palestinien ». On y est presque aujourd'hui. Hein.
Équilibré, vous le dites, parce que il réaffirme ce que faisait De Gaulle. Là, on l'a oublié dans cette conférence de presse 67, on a retenu que peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, mais on oublie qu'il avait affirmé la nécessité de l'existence, de la reconnaissance de l'existence de l'État d'Israël, ce que continue de faire François Mitterrand, de même qu'il ménage les Palestiniens et même les États arabes. Il recevra en 89 Yasser Arafat à l'Élysée. Il va
que nous sauverons trois fois.
Voilà,
il faut savoir évacuer. Que les Français ont sauvé trois fois Yasser Arafat.
Alors, cette politique, au fond, n'a pas tellement changé, y compris avec le successeur de François Mitterrand, Jacques Chirac, Yvan Levaille.
Écoutez, moi, je trouve que Jacques Chirac, alors bon, il paraît qu'il va pas très bien dans les sondages actuellement, on l'entendra ce soir à la télévision, mais je trouve qu'il est, bien, là, le successeur de François Mitterrand, il va même un peu plus loin. C'est-à-dire que la condamnation de Vichy par Jacques Chirac, elle est répétée, répétitive, et c'est très bien qu'il le fasse comme président de la République. Pour le reste, moi, il me semble qu'il a épousé à un moment la politique gaullienne, la politique arabe de la France, et qu'il a eu un peu tendance à oublier l'État d'Israël. Et puis, voilà que les Syriens lui assassinent son ami, le Libanais, Rafik Hariri. Et depuis que Hariri est mort, vous allez me dire, c'est peut-être voir une petite cause sur un nouveau phénomène. Il me semble que Jacques Chirac a mieux compris Sharon que l'opinion le comprenait il y a quelques années et que les gaullistes voulaient bien le comprendre il y a quelques années aussi. Et que les choses ont changé, c'est pour ça que moi mon livre se termine sur un chapitre d'espoir, parce que j'ai le sentiment qu'en France aujourd'hui, on peut à nouveau aimer au grand jour l'État d'Israël et se rappeler que c'est une démocratie et qu'il peut y avoir une alliance des démocraties contre toutes les dictatures et contre le terrorisme.
Mais en même temps, Yvan Levaille, est-ce qu'on peut parler pour autant de politique de la France dans la région? Elle était absente du processus de paix, elle n'était pas Camp David, elle n'était pas à Oslo, elle se défausse sur l'Union européenne en permanence, qui n'a pas de politique étrangère, ou plutôt qu'il y en a trop, ce qui revient au même. Est-ce que la France est encore présente dans la région?
Écoutez, moi je me souviens de Pierre Manès-France-Rue, du conseiller Collignon, et Dieu sait s'il se donnait du mal pour réunir les uns et les autres, et il le faisait d'une seule façon. Il disait, attention, attention, dépêchez-vous, Israéliens et Palestiniens, de faire la paix, parce que si vous ne la faites pas, vous déboucherez sur la Pax Americana, et ce ne sera pas votre paix. Eh bien, on y est aujourd'hui encore, et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi ceux qui nous écoutent qui voudraient bien que l'Europe joue puissamment un rôle et un grand rôle au Proche-Orient. Après tout, la Méditerranée, c'est un lac, c'est notre lac. Et c'est là qu'on pourrait faire en sorte qu'il devienne plus tranquille qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc que l'Europe s'implique davantage et que la France s'implique davantage. Vous savez qu'il y a 600 000 juifs ici en France. Eh bien, que cela demande justement une implication européenne plus grande. Moi, c'est ce que j'ai souhaité en écrivant ce livre.
Israël, mon amour, que vous venez de signer au Seuil, Yvan Levaille, et qui est un livre subjectif, vous n'en cachez pas, qui n'est pas un livre d'histoire, mais qui exprime votre passion et votre intérêt pour Israël. Vous avez pu entendre un extrait de l'émission L'Histoire en direct, diffusée sur France Culture en novembre 1987. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Toba Robin et Patrick Henry. Documentation, archives sonores, Claire Destacan, Claire Tesser et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Pierre Berger, un des auteurs les plus singuliers de la littérature française, Jean Cocteau, mais tout de suite à 14h30, en attendant le prince des poètes, le roi du rock sur France Inter, Eric Oswald, bonjour.
Bonjour Patrice, et à demain.
Elle rouge, elle vient bien. Aux drums et aux percus, monsieur Elvis Gourdin. À la guitare électrique, Franck Adamo Junior. Et à la vocalise, votre serviteur, Alain Patterson.
Musique express. Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.
Eric Oswald.
Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant.
Pour le décollage, nous vous demandons de redresser la tablette et le dossier de votre siège. Merci de votre attention et très bon vol en notre compagnie.
Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express pour la dernière semaine, la der des der.